Bonjour Siracilla.
Bonjour Monsieur Rivière.
Vous allez remettre dans les prochains jours au ministre des Affaires étrangères un rapport sur ce que l'on appelle la diplomatie culturelle et d'influence de la France avec la perspective des 10 prochaines années. La diplomatie culturelle, peut-on lire en tête de ce document, n'est ni un gadget ni un moyen de compenser notre puissance déchue. C'est un puissant vecteur de notre politique étrangère et encore, que nous le voulions ou non, nous existons dans le regard de beaucoup de pays du monde. Par la culture et par les œuvres de l'esprit, et notre influence dépend aussi de notre capacité à répondre à cette curiosité et à cette attente vis-à-vis de la France. Est-on vraiment sûr de cela? Est-ce qu'on ne vit pas malgré tout encore un peu sur une image dépassée de la France rayonnante culturellement?
Oui, enfin déjà je tiens à dire qu'on a mon co-rapporteur et moi-même avons auditionné 250 personnes, tout à fait, Michel Herbillon, 250 personnes sur un an. Et donc ce que nous avons constaté, notamment au niveau des pays émergents et de la jeunesse africaine, c'est que la France est perçue comme vieillissante. On a toujours cet esprit conquérant, en fait. Et la jeunesse africaine se détourne de la France. Or, la France a le premier réseau culturel au monde. Mmh. Et il est vraiment nécessaire, et nous invitons le gouvernement vraiment à agir en matière de diplomatie, parce que, comme on le dit dans le rapport, cette diplomatie culturelle doit vraiment être un outil d'influence et vraiment un outil d'instrument au service de notre politique étrangère.
Mais de quel point de vue la France est-elle vue comme vieillissante?
On le voit par exemple en Afrique avec...
Mais du point de vue de la population ou des idées
Au niveau des idées. En fait là, dans l'esprit des Africains, des jeunes Africains, la France est toujours vue comme le pays colonial qui veut exporter sa culture. Et en fait, nous, ce qu'on dit dans le rapport, c'est qu'on doit passer d'une logique de diffusion à une logique de partenariat. Ouais. Ça, c'est très important, à une logique de co-construction avec la jeunesse africaine.
En effet, vous préconisez, je vais reprendre le terme qui est employé, une francophonie moins institutionnelle, plus tournée vers des actions concrètes, en prise avec les sociétés civiles. Ça, c'est la demande, en effet, qu'expriment notamment les Africains, et qui demande également, au fond, une forme de respect, qui demande d'être traité d'égal à égal. Ça, c'est une demande très forte, non?
C'est une demande très forte, c'est-à-dire stop, fini la charité. Nous souhaitons maintenant une relation d'égal à égal avec la France. Nous ne souhaitons pas que la France nous donne des leçons. Et la langue française, si je peux parler de la langue française,
oui, c'est important,
la langue française n'est pas
c'est...
la langue des savants. La langue française n'appartient pas seulement aux Français. La langue française appartient à tout le monde.
Alors ça, c'est la dimension francophonie, on va y venir. Comment on le met en place, ça, concrètement, ce changement de manière de voir les choses, ce changement de relation?
En créant vraiment des partenariats. En fait, en arrêtant de se poser en donneur de leçons, pour revenir à la francophonie, le président de la République a lancé l'an dernier un plan novateur au sujet de la langue française et du plurilinguisme, et notamment. Le président, lui, dit qu'il ne faut pas, dans les pays africains, seulement, on va dire, prôner l'apprentissage du français, mais aussi développer l'apprentissage des langues locales, maternelles. C'est très important. On ne doit pas être dans un système concurrentiel, mais on prône un bilinguisme, un multilinguisme. Et pas d'impérialisme.
Ouais. Pour rester un instant sur l'Afrique, vous préconisez de mieux organiser les mobilités étudiantes entre la France et l'Afrique. Les étudiants africains, peut-on lire dans ce rapport, se dirigent désormais davantage vers les pays anglo-saxons ou même la Turquie et l'Arabie saoudite. Il est essentiel de capter les élites du continent. La question des visas doit impérativement être réglée à ce titre. Vous pensez être entendu dans un contexte qui est quand même extrêmement tendu sur les questions migratoires?
Moi, je pense qu'on n'a pas le choix. Si on veut vraiment, on va dire, que ces jeunes Africains arrêtent de se tourner vers les pays anglophones ou encore la Turquie, en fait, nous, on dit dans le rapport qu'il faut donner plus de visas, et ce, dès le premier cycle. Il faut aussi développer ce qui a été par exemple mis en place entre le Sénégal et la France, puisque développer les coopérations en matière universitaire. On a notamment le campus franco-sénégalais qui a été créé, et si on est vraiment dans une logique de partenariat d'égal à égal avec un campus franco-sénégalais qui permettra d'avoir un label français, moi je pense que c'est ça qui va permettre aux étudiants africains de dire bon, la France est toujours là et on ne l'oublie pas.
Quand il est dit dans ce rapport qu'il est essentiel de capter les élites du continent africain, est-ce que ça n'a pas un double sens? Est-ce que ça ne peut pas être interprété comme une volonté de dépouiller l'Afrique de ses élites, de ses têtes pensantes?
Pas du tout. Je vais aller sur le niveau culturel. Quand on dit qu'il est nécessaire de capter les pays et les Africains, enfin la France et l'Afrique, c'est une longue histoire d'amour, notamment pour l'Afrique francophone. Le président de la République a lancé au Nigeria, à Lagos, le lancement de la saison 2020. Mmh. La saison 2020, en fait, permettra à de nombreux artistes africains de se produire en France, dans plusieurs lieux en France. Et donc, ce sera des spectacles contemporains produits par les Africains, pour les Africains, mais en France.
Alors, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, et c'est souligné dans ce document, c'est que le rayonnement culturel de la France a aussi une dimension économique qui est extrêmement importante.
Oui, tout à fait.
Ça représente des sommes considérables.
Oui, je peux notamment parler des industries culturelles et créatives. Ouais. Lorsqu'on constate qu'en 2016, elles ont généré près de 5 milliards d'euros et qu'en 2 ans, il y a eu une croissance de 14% dans ce domaine, comment ne peut-on pas mieux accompagner nos ICC? Nos ICC sont souvent des TPE, des
alors,
PME.
Alors attendez, ICC, TPE, il faut peut-être expliquer.
Alors, les industries culturelles et créatives sont souvent des petites entreprises, des PME, moyennes entreprises, et donc il est nécessaire de les accompagner. Elles ne sont pas encore très bien accompagnées.
Est-ce que la diplomatie culturelle de la France a besoin aujourd'hui de moyens supplémentaires?
Oui, clairement.
Il me semble l'avoir compris à la
lecture
du document.
Tout à fait. En fait, ce qu'on dit dans le rapport, c'est que la diplomatie culturelle ne doit pas être la variable d'ajustement. Ouais. Il y a eu pendant des années des coupes budgétaires. Là, le budget a été sanctuarisé. Si on veut vraiment une ambition au niveau de la diplomatie culturelle, il faut mettre les moyens à la hauteur des ambitions.
Alors, la francophonie est finalement l'un des pans de la dimension, du rayonnement culturel de la France, ou de la diplomatie culturelle. Et la francophonie, ce sont aussi des valeurs qui sont défendues par l'Organisation internationale de la francophonie, notamment la démocratie, les droits de l'homme, l'égalité homme-femme. Au sommet tout récent de Yerevan, c'est la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, qui a été élu secrétaire général de la francophonie. Est-ce que vous diriez que le Rwanda incarne ces valeurs de la francophonie, démocratie, droits de l'homme?
Je suis présidente à l'Assemblée nationale du groupe d'amitié.
Je le sais.
France.
Vous faites bien de le rappeler.
France-Rwanda. Oui, la France a soutenu la candidature de la ministre des Affaires étrangères. Et moi, honnêtement, je me réjouis qu'un pays africain soit à la tête de l'Union africaine.
Y compris si ce pays a supprimé le français des écoles pour le remplacer par l'anglais.
Il faut savoir que le français est resté une langue officielle
du
Rwanda.
Oui, mais il n'est plus enseigné.
Oui, mais on peut l'expliquer par les raisons, on va dire, passées, notamment le génocide. Le génocide rwandais a fait en effet que le français a perdu du recul. Mais moi, ce que je constate depuis que je suis membre du groupe d'amitié, que j'ai des relations avec l'ambassadeur et les Rwandais, c'est que les Rwandais veulent vraiment une nouvelle relation avec la France. Certes, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, le président de la République veut travailler sur un travail de mémoire par rapport à ce qui s'est passé au Rwanda, un comité d'experts.
Est-ce que ça n'était pas justement finalement cette élection et le soutien de la France un geste pour faire taire un peu les critiques sur le rôle de la France dans le génocide rwandais?
Non, je ne pense pas du tout, parce que le Rwanda est un pays résilient. Quand on voit ce qui s'est passé, le Rwanda en matière du numérique est à la pointe en Afrique. Et la France ne doit pas oublier les pays francophones où elle a perdu du recul, mais aussi les pays anglophones. Et elle a quand même été élue, cette ministre des Affaires étrangères, par les pays africains. Et encore une fois, quand on sait que 700 millions de personnes pourraient parler le français en 2050, moi je pense que c'est une bonne chose.
Merci Sira Sylla, bonne journée.